Amen, amen. Amen, amen. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire dans nos cultes de jeunes, pour ceux-là qui sont là depuis très longtemps, ils savent que nous aimons ici à Gomaville, dans nos cultes de jeunes, nous aimons faire les enseignements en termes de séries. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer une nouvelle série d'enseignements que nous avons intitulée « Les deux chemins ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Les deux chemins ». Les deux chemins. Alors, c'est une série où on sera en train de nous donner des techniques ou des enseignements qui vont nous aider dans la prise de décision dans notre vie courante. Amen, amen. Et je sais que chacun de nous, qui l'a si coup, nous sommes soumis à prendre des décisions. Chacun de nous, à chaque marqué, à retour la décision. Même venir ici aujourd'hui, quelqu'un a pris la décision de venir. Nous avions le choix entre rester à la maison ou venir ici, mais nous avons choisi de venir. Amen, amen. Donc nous allons commencer par un petit jeu intitulé « Ceci ou cela ». J'aimerais que mon ensemble, on sera en train de nous balancer les images et nous serons en train de dire « Tuna cité et tuna peine ». Amen, amen. Et donc le média va nous balancer la première image. Nous allons dire soit « Comment tuna peine » à WhatsApp normal, à WhatsApp GB. WhatsApp normal, à WhatsApp GB. Hein, tout ce qui est, tu sais maintenant, c'est WhatsApp normal ou GB? Bah GB, oui, quoi, WhatsApp, on a eu. Quoi, bah on a. Très bien. Merci beaucoup, Next. iPhone ou bien Android? Hein? iPhone ou bien Android? iPhone, ça. iPhone, c'est comme ça qu'on a gagné. Next, papa. Barça ou bien Real? Barça ou bien Real? Bato à Barça, tu sais, Mikono Yulu. Bato à Real, tu sais, Mikono Yulu. Bon, Real est toujours à Kwanza Moutounia, donc, vas-y. Next, papa et chaîne. Instagram ou bien TikTok? Combien? Bon, TikTok, Instagram, c'est un gagné. Next, et chaîne. Ah, Fufu viande ou bien Arikori? Assemé? Fufu et Fufu vient de tout ce qu'on a eu. Ah! Fufu l'emporte. Ok, now, pour le suivant, j'aimerais écouter la vie de quelqu'un. Donc, il y a un peu de temps, choisir entre être l'homme le plus intelligent de la planète ou être le plus riche de la planète. Les riches, les riches, c'est quoi? Tu peux nous expliquer pourquoi? Quelqu'un va nous expliquer pourquoi tu choisis riche?
En fait, moi, personnellement, je préfère la richesse parce qu'avec la richesse, on paye tout. Donc, quand on a l'argent, on peut s'entourer des gens qui sont intelligents et les payer.
C'est bon. C'est là qu'ils disaient qu'ils ont besoin de l'intelligence. Ah, ok, il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de l'intelligence.
Je dirais que le savoir est la plus grande richesse qui existe sur Terre. Alors, je n'ai pas besoin de toute richesse monétaire, mais ce qui est dans la tête importe plus. Alors, c'est ça.
C'est bon, merci beaucoup. Et j'ai next. Ok, la réussite ou le bonheur? Hein? La réussite ou le bonheur? Quoi ça, tout ça maintenant, ça outil, la réussite ou le bonheur? Ok, je vais écouter d'abord, moi, c'est mal le bonheur.
Merci. Moi, je préfère le bonheur. Parce que on peut avoir réussi, mais sans avoir le bonheur. On peut réussir parce qu'on est intelligent, mais on n'a pas le bonheur.
Tu n'es pas assez haute. Ok, et j'aime le suivant. Ok, là-bas je vais expliquer un peu. 1 million de dollars aujourd'hui ou bien 100 dollars qui la si quoi qu'on a compatir. Tu n'as pas goûté ni. Oui. Tu choisis comment? Quelqu'un va expliquer son choix.
Moi, je choisis 1 million tout de suite. Parce qu'avec les 1 million, je peux investir dans quelque chose qui va me donner plus de 100 $ chaque jour. Oui.
C'est bon. Le suivant, c'est ceci. Choisir entre être sauvé et aller vivre aux États-Unis. Sauver le salut. Kuokoka. Nakwende ici, Las Vegas, Miami. Quelqu'un va...
Moi, je veux choisir aller aux États-Unis parce que même là-bas, je peux être sauvé.
OK, merci beaucoup. Alors, c'était juste un jeu. Et sous nos applaudissements, nous allons inviter Papa Jérémy à venir nous conduire dans la prédication.
Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour la gloire du Seigneur? Merci beaucoup, frère Don, pour ce moment très important que nous venons de passer. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller en Amérique et des fans du foufou. Merci beaucoup. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Juges, chapitre 13, et nous allons tous nous lever pour honorer cette parole. Juges, chapitre 14, du 1er au 4e verset. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Point. Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car... elle me plaît. » Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. À ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. On va aussi rapidement lire les chapitres 16 du 1er au 4e verset. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous les tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva, il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle s'est nommée Delila. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore une fois de nous asseoir sous ton enseignement. Nous prions, Père éternel, que tu puisses encore une fois parler à nos cœurs et tu puisses encore une fois nous éclairer davantage dans ce thème qui n'est pas facile, qui est complexe, celui de la prise de décision, Seigneur. Je prie pour moi-même, je prie, Père, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient acceptables devant toi et qu'elles puissent affermir ton peuple réuni encore une fois cet après-midi. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu vas nous guider. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous pouvez vous mettre. Voilà, c'est un privilège encore une fois de nous retrouver ici pour commencer cette nouvelle série. Et vous avez tous entendu dire que le thème... c'est les deux chemins, n'est-ce pas? Les deux chemins qui vous rappellent une récitation que nous avions apprise. Je ne sais plus si c'était à l'école primaire ou à l'école secondaire, mais c'était plutôt drôle. Hein? Parce que si vous suivez cette récitation, c'est vraiment une histoire très drôle. Parce que cet enfant se retrouve au bout d'une route. Il trouve tout à coup des chemins. Et puis, il commence à tourner son chapeau dans ses mains. Ça s'est décidé. Decision process. Je sais que nous tous, nous nous retrouvons des fois devant un choix, et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, tu roules ton chapeau dans tes mains. Et puis, il se dit, est-ce qu'il faut prendre à gauche ou à droite ou bien rester là jusqu'au soir? Vous savez tout ça, n'est-ce pas? Et après, il y a une dame qui est passée avec un âne et qui a dit à l'enfant, bon, tu peux suivre cet âne. Tu peux suivre cet âne. Lui, il connaît les chemins. Suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras. Et l'enfant, on dit qu'il baissa la tête et contre lui-même, il boudait d'être conduit par une bête. Parce que quand on ne sait pas quoi faire, on est conduit par n'importe quoi. Vous comprenez? Il était conduit par une bête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais vous dire qu'est-ce qui vient ensuite. Et donc, c'est vraiment réel. Nous vivons tous dans une vie où nous sommes appelés à opérer des choix, n'est-ce pas? Le choix de se réveiller le matin, tu sais comment tu fais, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu te rinces d'abord les dents ou tu vas d'abord sous la douche? Chacun a des choix. Chacun a une façon de faire, une façon de faire des process pour sa vie. En fait, il y a une multitude de choix que nous faisons en une seule journée. En une seule minute, on peut avoir même opéré 20, 100 choix, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres décisions de la vie qui demandent à ce qu'on prenne plus de temps pour réfléchir. Et j'ai aimé beaucoup ce que Don vient de faire parce que la plupart des fois, quand il présentait ce choix-là, il ne représentait pas des choix entre qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bon, n'est-ce pas? Ça semblait tous être des bons choix. Parce que la décision la plus difficile à prendre, c'est la décision entre deux bonnes choses, n'est-ce pas? Entre deux bonnes choses. C'est très difficile de prendre une décision entre deux bonnes choses. Et donc, selon les cas, au fait, la prise de décision peut à la fois être un problème ou un privilège. Ça peut être un problème quand on ne sait pas quoi faire, comme cet enfant qui se retrouve devant des chemins et il ne sait pas quoi faire. Là, la prise de décision devient problématique, au fait. Un problème quand on n'est pas suffisamment informé ou mature, justement, pour opérer les bons choix. La prise de décision peut à la fois être un problème et un privilège. Un problème quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'est pas suffisamment informé. Vous savez, un jour, on s'est retrouvé dans un restaurant et on nous a présenté un menu. C'était un restaurant arabe. Et on a vu toutes ces choses, toutes ces nourritures-là. Tu regardes là-bas, je ne sais pas, cuisses de grenouille suspendues au plafond, je ne sais pas quoi, beaucoup de trucs là qu'on n'a même pas compris. Et on avait du mal à choisir. La prise de décision est devenue un problème pour nous parce qu'il y avait vraiment des choses sur lesquelles on n'était même pas informé à tout bijouer. Il n'y avait pas du riz et des haricots ou bien la viande et les foufous. Non, il n'y avait rien de cela. C'était vraiment des noms étranges. Et donc, c'était vraiment un dilemme. Et on a juste choisi par hasard. On s'est dit, bon, prenons chips et poissons. Et les genres de poissons qu'ils nous ont amenés, on s'est demandé, c'est toujours du poisson ou bien ce sont des savons. C'était vraiment bizarre. Parce que la prise de problème, quand on n'est pas informé, ça peut être un problème, un sérieux problème. Et donc, c'est vrai qu'il est important qu'on prenne des décisions. Il est important qu'on prenne des décisions, bien que ça peut être un problème. Parce que ne pas prendre une décision, c'est aussi décider, n'est-ce pas? Quand on s'est retrouvé devant ce menu-là, on avait faim. Mais il fallait qu'on mange, même si on ne connaissait pas la nourriture qu'on nous présentait. Donc on avait le choix entre rester affamé et choisir ce qu'il y avait là-bas, même si on ne le connaissait pas. Comprenez? Ne pas prendre une décision peut aussi être une décision. Et la plupart des gens, quand ils ont du mal à décider, quand ils n'ont pas suffisamment d'informations, c'est cela qu'on se retrouve en train maintenant d'utiliser des paramètres un peu bizarres, au fait, pour choisir. Vous vous rappelez quand on était enfant, on avait ces jeux ici qu'on disait pot, pot, pot. Vous vous rappelez, hein? Ou bien tu prends une pièce d'argent, tu te dis pile ou face. En tout cas, tu vois une belle fille, ni moudragué, ou ni moudragué. Et tu prends une pièce d'argent, tu fais ça, pile, j'y vais. Ou bien face, je laisse. Ça, c'est quand on n'est pas informé. Quand on n'est pas informé, quand on ne sait pas quels sont les principes à prendre en compte pour prendre des décisions, c'est quand on utilise des paramètres un peu hasardeux. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de confusion, au fait. Deutéronome chapitre 29, verset 29, c'est l'un des versets clés de cette série, nous dit ceci. Je vais les lire. Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup de choses dont nous ne savons pas quelles seront les conséquences, quels seront les produits, mais il y a quand même des choses que la Bible nous assure que Dieu a déjà révélées à nous, ses enfants, et à perpétuité. Tu ne sais pas combien de jours tu vivras, n'est-ce pas? Tu ne sais pas si demain tu tomberas malade ou pas, n'est-ce pas? Ça, ce sont des choses cachées qui appartiennent à Dieu. Mais il y a quand même des choses qu'il a révélées, des principes et et de bonnes choses pour nous guider dans notre prise de décision. Okay? Et donc, Dieu n'est pas un Dieu de confusion pour que nous utilisions des paramètres hasardeux pour prendre des décisions. Okay? Alors, il y a deux grandes choses, deux grands concepts, au fait. J'ai dit aussi que la prise de décision peut être à la fois un problème et un privilège, n'est-ce pas? Un privilège pourquoi? Un privilège parce que quand on te permet de prendre une décision, ça veut dire qu'on croit que tu es suffisamment mature pour prendre la bonne décision ou bien pour opérer les bons choix. Quand quelqu'un commence à prendre des décisions, ça veut dire que cette personne est en train de grandir, au fait. Au fait, l'humanité s'arrêterait si les gens ne grandissaient pas jusqu'au point où ils commenceraient à prendre des décisions, n'est-ce pas? Imaginez-vous un parent qui a aidé son enfant à grandir, tout ça. Et cet enfant, c'est vrai que dans une phase, quand on est encore mineur, il y a certaines décisions que les parents prennent pour nous. Il y a certaines décisions dans lesquelles ils nous guident parce qu'on est encore sous leur tutelle, n'est-ce pas? Mais à un moment, chaque parent est fier quand finalement sa fille ou son fils commence aussi à prendre des décisions. Ici, chez nous, on a une façon de parler où on dit que « Achanjakua, mutu muzima », n'est-ce pas? Imaginez-vous qu'un garçon grand, comme Don, par exemple, qui vient chez son père et lui dit « En tout cas, papa, je vais me marier ». Je sais que c'est l'une des plus grandes prières de Don, donc je la cite « Je vais me marier ». Et il arrive devant son père et il dit « En tout cas, nisaidie kuchagu ». C'est vrai que dans un certain contexte, dans le passé, ça se faisait. Il y avait des familles qui s'arrangeaient et disaient « En tout cas, oui, tu n'en as pas les familles à Fulane. Va dans cette famille-là, pour ceux qui ne comprennent pas les Swahili. » Ça, c'était dans le passé aussi, dans certains contextes, comme en Inde, où il y a des familles qui disent « En tout cas, notre fils, nous avons une alliance avec cette famille, c'est là que tu iras. » Même pour les choix de la carrière, au fait, c'est des fois héréditaire où mon père a été ingénieur et justement, c'est ça la voie de notre famille. Mais ce n'est pas toujours la même chose maintenant. Parce que maintenant, on a une multitude de choix et, au fait, la maturité vient du fait qu'on peut aussi opérer des choix par nous-mêmes. Les parents sont fiers quand on fait des choix par nous-mêmes. Et ce serait vraiment frustrant d'avoir un enfant qui revient toujours vers toi. « Ok, papa, merci parce que tu m'as aidé à choisir une épouse. Mais maintenant, nous voulions avoir des enfants. Est-ce qu'on peut les faire ou pas? » Il serait vraiment frustré, n'est-ce pas? Maintenant, nous venons d'avoir suffisamment d'argent et on pensait payer un véhicule. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Bon, c'est vrai, c'est bon de demander conseil, mais c'est fatigant d'avoir un adulte qui revient tout le temps et tout le temps vers son père pour qu'il l'aide à faire quoi? À prendre des décisions. Parce que la prise de décision est un privilège parce que c'est la preuve que nous sommes en train de devenir matures. Et dans le processus, justement, de prise de décision, c'est là que nous devenons encore un peu plus mature, parce que nous apprenons des erreurs, nous apprenons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. C'est là que la maturité continue encore et encore à grandir en nous. Ça va? C'est pour ça que c'est un privilège. C'est aussi un privilège. Alors, la récitation là, au fait, il y a quatre derniers vers que j'ai beaucoup aimé dans cette récitation. Elle dit « Si tu veux connaître la route, mon petit, quand il sera grand, instruis-toi bien, car il en coûte de passer pour un ignorant. » Il en coûte de passer pour un ignorant. C'est pour ça que je suis en train de dire que la prise de décision peut être un problème quand on est encore dans l'ignorance. On n'a pas encore tous les paramètres en jeu. Qu'est-ce qu'il faut voir? Vous savez, les avions ont un tableau d'indication, n'est-ce pas? Même les véhicules, n'est-ce pas? Ils ont un tableau de bord. Ça montre les paramètres pour dire que, OK, ici, tu peux accélérer. Ici, il faut que tu ailles à la station-service. Et donc, on a besoin de ces paramètres-là. On a besoin d'un tableau d'indications qui va nous aider justement à bien prendre des décisions qui sont inspirées par la sagesse. Et ce sont ces paramètres que je vais donner d'une manière introductive à cette série. Okay? Quelques paramètres, ce n'est pas une liste exhaustive, mais quelques paramètres qui vont nous aider. C'est comme un tableau d'indications, n'est-ce pas? Un tableau indicateur, un dashboard qui va t'aider à dire « OK ». Ici, je peux m'arrêter pour prendre de l'essence. Ici, je dois peut-être freiner ou décélérer. Ici, mon moteur est en train de chauffer, ainsi de suite. Ça va? Et donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Mais avant même de vous donner ces paramètres, vous devez comprendre qu'il y a des grands concepts théologiques qu'il faut prendre en compte quand on veut prendre des décisions. Le premier concept, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Parce que peu importe toutes les décisions qu'on prendra, la Bible nous rappelle encore et encore et Dieu est au contrôle. C'est pour ça que la Bible peut dire dans Ésaïe chapitre 14, verset 26, « Voici la résolution prise contre toute la terre, voici la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? » Ça, c'est un premier principe qu'il faut savoir, que peu importe toutes les décisions qu'on prendra, Dieu est d'abord, la volonté de Dieu est celle qui s'accomplit fin des fins. C'est lui qui est au contrôle de toutes les... En fait, on prend des décisions, mais sous le contrôle d'un Dieu qui est souverain. C'est lui qui connaît comment les produits de nos décisions. On n'a pas totalement le contrôle sur ce qui sera le produit de toutes nos décisions, mais Dieu, lui, comme il est au contrôle, comme lui n'est pas limité par le temps et l'espace, il connaît le futur, il connaît le passé, il est même là au présent, au fait, il sait vraiment les outcomes ou bien les produits de toutes les décisions. Ça, c'est un grand principe qu'il faut savoir. C'est pour ça que l'auteur du Proverbe pouvait dire, Proverbe chapitre 16, verset 1, « Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » On peut avoir des projets, on peut se dire, en tout cas, il faut que je décide ça, mais la souveraineté de Dieu est là aussi. Ce n'est pas parce que tu as travaillé dur que tu auras nécessairement cette promotion-là. Ce n'est pas parce que tu as peut-être choisi la bonne personne, celle qui est chrétienne et tout ça, que ton mariage aura moins de problèmes. Il peut arriver que des problèmes arrivent, comprenez? Parce que tout ça, ce sont des choses qui dénotent de la souveraineté de Dieu. Et donc, quand nous voulons prendre de grandes décisions, nous devons toujours prendre en compte ces grands principes. Que Dieu est d'abord souverain sur toutes choses. On n'a pas nécessairement le contrôle sur ce qui pourrait être les outcomes ou bien les produits de toutes nos décisions. Amen. Je sais que ça effraie un peu. Et là, vous pouvez peut-être vous dire, mais pourquoi alors décider si Dieu est au contrôle, n'est-ce pas? Eh bien, je dois vous dire aussi que la souveraineté de Dieu ne marche pas seule. Elle marche aussi avec la responsabilité humaine. Nous avons aussi une responsabilité. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, tu peux manger de tous les arbres, n'est-ce pas, de ces jardins. Sauf, ça veut dire qu'il venait de leur donner quoi? La liberté d'opérer des choix et de prendre des décisions. Donc, à part la souveraineté de Dieu, à part le fait que Dieu est au contrôle de l'histoire de l'humanité, sachez que nous avons aussi la responsabilité de faire quoi? De choisir. C'est comme un oiseau, au fait. Un oiseau n'a pas besoin d'une seule aile pour pouvoir voler. Elle a besoin de deux ailes. C'est pour ça que la prise de décision, c'est aussi la même chose. C'est à la fois nos choix, les choix que nous opérons, les décisions, mais c'est aussi la souveraineté de Dieu pour pouvoir voler. Amen. Voilà. Donc, il y a la responsabilité humaine, il y a aussi la souveraineté de Dieu. Des grandes choses qu'il faut garder en tête quand on doit prendre des décisions. C'est un concept très difficile, c'est vrai, à comprendre. Des fois, on se pose beaucoup de questions. Mais devant ce genre de choses, il faut seulement dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur parce que les conséquences de toutes mes décisions, au fait, ne dépendent pas de moi. Vous savez combien ça serait vraiment lourd si toutes les conséquences de nos décisions étaient sur nos épaules. La souveraineté de Dieu, au fait, c'est comme quelque chose qui nous rassure parce qu'on sait que même quand on a opéré des mauvais choix, Dieu pourvoit un sauveur qui vient et nous sauve dans sa souveraineté. Parce que même quand Adam et Ève ont désobéi dans les jardins d'Éden, dans sa souveraineté, Dieu avait déjà prévu, il avait déjà anticipé comment il allait, encore une fois, retourner ses mal et les sauver même de ses mauvais choix à travers la personne de Christ. Donc, quelque part, la souveraineté de Dieu doit nous rassurer parce qu'on sait que le poids même de mes mauvaises décisions n'est pas totalement sur moi parce qu'il y a quand même un Dieu qui est au contrôle. Et si je me tourne vers lui, même mes mauvais choix, il peut les retourner et en faire quelque chose de très bon. Il y a quelque chose que j'avais écrit quand j'étais en 2017. Je voulais écrire un livre. Et après, il y a un concept que j'ai écrit et que je partage avec vous. J'avais écrit ça en anglais. I'd rather be broken in the hands of God than whole in the face of men. Because God is the only one who can make broken into beautiful. Who can turn broken into beautiful. Traduction, ça veut dire quoi? Je préfère être brisé, confus, mais dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui peut retourner, utiliser même ce qui est brisé et en faire quelque chose de très beau. De très beau. C'est ça même ce qui nous rassure dans la souveraineté de Dieu. Quand on sait que Dieu est souverain, en fait, on n'a pas peur du fait que toute la responsabilité de nos choix, même les mauvais choix, incombe de nous, ou bien les conséquences de nos choix. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, il peut anticiper même les pires décisions. Amen. Et ça, c'est pour les personnes qui ont déjà commis de mauvaises décisions au courant de leur vie. Je suis en train de faire un appel à vous. Dieu est capable de transformer, d'utiliser ces mauvaises décisions et en écrire une belle histoire, à condition que vous vous remettiez entre ses mains. Tu viens avec tout ça, tout ton brisement, tout ce que tu as eu comme faute, toutes ces erreurs, tu dis, Seigneur, en tout cas, je n'en peux plus, aide-moi. Et il peut l'utiliser pour en faire quelque chose de beau. Amen. Voilà, donc on a compris ces deux grands concepts et ce n'est pas très facile à comprendre, mais je pense que ça va vous aider aussi. Ça va, on est ensemble jusque-là? En tout cas, cette série, c'est une série d'enseignements. Enseignements pour qu'on puisse bien comprendre. C'est pour ça que dans les livres des Juges, chapitre 14, vous allez voir ce même concept revenir. La Bible nous dit, « Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et à sa mère et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Samson, qui est devenu adulte, il demande à ses parents, « Voilà, je viens de voir une dame, waouh, une très belle femme. Je l'ai vue, elle me plaît, prenez-la pour ma femme. » Et ses parents lui disent, « Mais ah, cette fille, elle n'est pas de chez nous. C'est une fille de chez nos ennemis, les Philistins, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas selon les mêmes principes que nous. » Mais c'était le choix de Samson, parce qu'il a la liberté d'opérer un choix, n'est-ce pas? Ses parents, dans leur sagesse, essaient un peu de lui conseiller, de lui dire, « Mais comment tu vois cette fille-là? Elle n'est pas vraiment de chez nous. » Mais Samson a dit, il dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Je vais vous dire aussi que dans les principes que je vais vous donner, vous allez voir pourquoi Samson a pris cette décision aussi. Quels sont les paramètres qu'il a utilisés pour prendre cette décision? Et la Bible nous dit au verset 4, « Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. » On peut se dire, mais ah, est-ce que c'est Dieu qui a soufflé à Samson de désobéir à sa parole et d'aller prendre une femme philistine, n'est-ce pas? Parce que dans la Bible, l'Éternel a dit encore et encore aux enfants d'Israël, « Ne vous mariez pas avec les personnes qui ne sont pas d'Israël. Ne vous mariez pas avec les Cananéens, les Philistins, de peur qu'ils ne vous détournent de mes voies. » C'est la parole de Dieu. Mais on nous dit encore ici, comme si c'était quelque chose qui s'opposait à ce que Dieu avait dit, que l'Éternel lui-même avait permis que Samson opère ses choix qui étaient contraires à sa parole. Au fait, ce que les Juifs comprenaient, c'est que tout choix est contrôlé par la souveraineté de Dieu. Même les mauvais choix de Samson ici étaient contrôlés par la souveraineté de Dieu qui devait utiliser Samson pour faire quoi? Pour accomplir la destinée qu'il avait avec lui. Parce qu'avant que Samson ne naisse, une parole a été prononcée et cette parole était que cette personne, nous allons l'utiliser pour délivrer le peuple d'Israël. Et donc, peu importe les erreurs que Samson pouvait commettre dans ses décisions, les plans de Dieu pour sa vie devraient nécessairement s'accomplir. C'est la souveraineté de Dieu qui est là. Comprenez? La souveraineté de Dieu est là. Et ici, je dois faire une parenthèse et dire que même si Dieu t'utilise puissamment, ça ne veut pas nécessairement dire que tous tes choix sont en train de lui plaire. Et donc, soyez de ceux-là vraiment qui non seulement Dieu utilise, mais les choix que nous opérons aussi sont en train de lui plaire. Ça, c'est juste une parenthèse que je ferme. On continue. Alors, populairement, beaucoup de gens, quand ils prennent les décisions, ils utilisent, j'ai parlé du hasard, il y a même d'autres qui utilisent les horoscopes, n'est-ce pas? Vous connaissez toutes ces histoires d'astrologie, hein? Oh, moi je suis du cancer, oh, nini. Il y a des gens qui sont comme ça, ils utilisent tout ça. En fait, ça montre toujours que les hommes voient toujours à quelque chose à l'extérieur de eux-mêmes pour le contrôle de leur vie. Ils savent qu'il y a un être supérieur ou quelque chose de supérieur qui contrôle leur vie malgré qu'ils ont la liberté de choix. Mais la plupart de ceux qui se tournent vers ces principes-là de divination, de médium, de consulter des magiciens ou des prophètes, des faux prophètes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. En fait, le but de cet enseignement n'est pas qu'on se tourne vers des choses mystiques, mais qu'on apprenne la sagesse. OK? On apprenne la sagesse. autre chose que les gens utilisent pour prendre des décisions. Et ce n'est pas mauvais, au fait. C'est la raison, la logique. On pèse les coups, les pour et les contre. On s'est dit, bon, si je fais ça, la loi des causes à effet, en tout cas, ça va se passer comme ça, n'est-ce pas? Si je tire, ça va blesser. Comprenez? Si je coupe au couteau, voici ce qui va se passer. On utilise la raison. Mais la raison, elle seule, peut être limitée parce qu'elle exclut Dieu du processus de prise de décision. Quand on ne pense qu'à sa raison, quand on ne pense qu'à la logique, la science et tout ça, la science a des limites. Il y a des questions que la raison seule ne pourra pas répondre. C'est pour ça qu'il faut une sagesse qui est au-delà de la raison, sagesse de Dieu. Il y a aussi une autre chose que les gens utilisent aujourd'hui pour prendre des décisions, c'est le principe de « suis la voix de ton cœur ». N'est-ce pas? On vous dit souvent ça, n'est-ce pas? Ah, si c'est ça, just follow your heart. Suis la voix de ton cœur. Fais ce qui te semble bon. Tant que ça ne blesse personne, c'est bon, non? Nous sommes entre adultes consentants. C'est bon. Ça ne blesse personne. Vous comprenez? La voix de ton cœur. Mais vous connaissez tout ce que la Bible dit, que le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le comprendre? Parce que tout ce que notre cœur désire n'est pas nécessairement bon pour nous. C'est le cas de Samson ici. La Bible dit, quand son père lui a fait cette mise en garde, il lui dit, cette femme, elle n'est pas de chez nous, c'est une Philistine. Samson a dit, prends-la pour moi car elle me plaît. Elle me plaît. Il a suivi la voix de son cœur. Il a eu un coup de foudre. Il a eu un coup de foudre et il a décidé de suivre la voix de son cœur. Mais vous verrez que même si Samson a réussi à accomplir le plan de Dieu pour sa vie, son histoire n'est pas quelque chose que tout le monde souhaiterait, n'est-ce pas, pour lui-même. Ses décisions, quelque part, l'ont affecté jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort aveugle, n'est-ce pas? Aveugle. Bien qu'il a accompli le plan de Dieu pour sa vie, il est mort aveugle. Alors, quels sont les paramètres à prendre en compte quand nous devons prendre des décisions, rapidement? Premier paramètre, ce sont les préférences. J'ai dit que toutes les choses que j'ai citées là ne sont pas tellement mauvaises. Les préférences. En fait, les préférences tiennent compte de nos passions, de nos habiletés, de nos aspirations. Il y a des personnes, en fait, qui grandissent dans la vie et ils savent que, en tout cas, moi, je préfère être ça. Okay? C'est comme moi, par exemple. Quand on parlait de foot ici, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Parce que mes préférences en termes de hobbies, ce n'est pas le foot. En termes de hobby, ce n'est pas le foot. Je préfère plutôt rester seul à la maison, regarder peut-être un film ou bien en train de lire. Ça, ce sont mes préférences et quelque part, les préférences ont une influence sur nos choix. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. En fait, ce n'est pas mauvais si tu n'aimes pas le froid de ne pas te retrouver dans un pays où il y a le froid, vous comprenez? Ce n'est pas mauvais si tu n'aimes pas, par exemple, le sang, de dire non, moi, je ne ferai pas la médecine. Vous comprenez? Préférence, c'est un paramètre pour prendre des décisions. Préférence, c'est un paramètre pour prendre des décisions. Mais les préférences viennent aussi de ce que nous voyons, de nos goûts. Et comme je l'ai dit, de ce qui notre cœur, ce qui plaît à notre cœur. Mais comme je l'ai dit, les préférences ont aussi une limite. Parce que Samson, on a vu qu'il a vu cette fille, elle lui a plu, c'était sa préférence, et il a choisi d'aller avec elle. Mais ces préférences-là, ces préférences, cette préférence a une limite parce que elle est allée en dehors de ce que Dieu voulait. Elle est allée en dehors de ce que Dieu voulait. Et la Bible dit en Proverbes chapitre 16, verset 5, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça veut dire que tout ce que nous préférons n'est pas nécessairement ce qui va nous mener vers la vie. N'est pas nécessairement ce qui va nous mener vers la bonne chose. Donc, à nos préférences, nous devons aussi ajouter aussi un deuxième paramètre. Mais aussi, je dois ajouter que tout ce que nous préférons ne sera pas nécessairement là. Comprenez? Même si on préfère quelque chose, tu dis, moi, je serai astronaute, par exemple, mais est-ce qu'il y a des écoles d'aéronautique ici? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? C'est votre préférence, mais est-ce que c'est disponible? Et donc, il y a un deuxième paramètre qui s'augmente aux préférences, ce sont les possibilités. Les possibilités. Les possibilités. Pour opérer des grands choix, il faut aussi connaître quelles sont les possibilités qui sont en face de nous. Vous savez, c'est un exemple simple. On peut vous dire, par exemple, vous pouvez vous dire, j'aime beaucoup la viande et les foufous, comme John nous l'a montré, n'est-ce pas? Il peut arriver que vous avez faim et ce jour-là, il n'y a que quoi? Il n'y a que les riz et les haricots. Est-ce que parce que vous aimez la viande et les foufous, vous allez refuser les riz et les haricots alors que vous avez faim? Non, parce que c'est ça la possibilité qu'il y a maintenant. Et donc, dans la prise de décision, il faut aussi tenir compte de ces deuxièmes paramètres qui sont les possibilités. Les possibilités qui sont devant nous. Les possibilités qui sont devant nous. Et il y a des possibilités qui, des fois, nous sont exclues. Parce que vous voyez, par exemple, il y a des offres qu'on met dans certaines entreprises. On dit, voici les critères. Il faut qu'il y ait une expérience de 5 ans. Il faut qu'il soit âgé de 25 ans au moins. Ou bien 25 ans ou plus. Ça veut dire que toutes les personnes de moins de 25 ans sont exclues automatiquement de ces choix-là. Comprenez? Tout ça, c'est possibilité. Les possibilités sont aussi un deuxième paramètre, un grand paramètre que nous devons prendre en compte quand nous opérons des choix ou bien quand nous prenons des décisions. Il peut aussi arriver que nos possibilités sont limitées à cause des choix des autres. Vous savez, nous ne sommes pas seulement les produits de nos propres choix ou de nos propres décisions. Vous savez ça? Parce qu'il y a des personnes comme Joseph, par exemple. Joseph, il vivait dans sa famille, mais à cause du choix de ses frères, il s'est retrouvé dans un puits, n'est-ce pas? Il a été vendu chez les Madians. Tout ça, ce sont des choix d'autres personnes qui ont fait que sa vie est allée telle qu'elle est allée. Donc, il y a des possibilités auxquelles on ne peut pas accéder à cause du choix des autres. Vous comprenez ça? Et il y a aussi d'autres possibilités qu'on ne sait pas voir parce qu'on n'est pas Dieu, justement. Je reviens encore à ce que j'ai dit dans l'introduction, qu'il y a des choses cachées que celles Dieu connaît. Il y a d'autres possibilités que celles Dieu connaît. Et sans Dieu, nos possibilités peuvent sembler limitées. Parce que si Joseph, par exemple, dont je viens de donner l'exemple, si Joseph n'était pas avec Dieu, si Joseph ne suivait pas vraiment les plans de Dieu pour sa vie à travers même les mauvais choix de ses frères, ses possibilités seraient limitées. Parce qu'à la fin, à la conclusion même de Genèse, il a dit, en tout cas, ce n'est pas vous qui avez fait ça. C'est Dieu qui a orchestré toutes ces choses pour le salut de plusieurs. Au fait, quand Dieu n'est pas même dans les mauvais choix de ceux qui peuvent nous faire le mal, en tout cas, nos possibilités sont limitées. C'est pour ça que la souveraineté de Dieu, encore une fois dans nos choix, nous rassure. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il est le seul qui est capable de changer le mal en bien. Même les conséquences des mauvaises décisions, peut-être de vos parents, de vos frères, de vos amis, quand vous vous tournez vers Dieu, au fait, il peut tourner, il peut utiliser même ses mauvais choix pour les salir de plusieurs et pour faire de vous la personne qu'il veut que vous soyez. Vous êtes en train de comprendre ça. Donc, nos possibilités peuvent sembler limitées, mais avec Dieu, il y a beaucoup d'autres possibilités. Amen. Et les possibilités sont à prendre en compte aussi, à prendre en compte. Autre chose, quatrième chose, c'est que comme Dieu est celui vraiment qui a l'histoire et le cours de notre vie et qui est vraiment celui qui est bon, qui a des bonnes choses pour nous, il y a donc une quatrième chose, c'est d'avoir des principes. Des principes. Là où les préférences sont limitées, là où les possibilités sont limitées, il faut aussi avoir des principes. Des principes. Des principes, pourquoi? Parce que les choix que nous opérons viennent de notre vision du monde. Les choix que nous opérons viennent de la compréhension que nous avons du monde, de l'influence au fait que nous suivons. Si quelqu'un choisit, par exemple, de s'habiller tel qu'il s'habille, c'est parce qu'il y a une influence derrière ces choix-là. C'est ça la vision du monde dont je suis en train de parler. Et je le vois, par exemple, chez nous, même des fois, moi, je le fais. Quand tu admires tellement quelqu'un, tu admires tellement une star ou un pasteur, c'est très facile aussi de t'habiller un peu comme lui, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui s'habillent juste comme un musicien parce qu'ils admirent ces musiciens. Il y a des personnes qui se coiffent comme un musicien parce qu'elles admirent ces musiciens-là. Il y a une vision du monde, au fait. Il y a une influence derrière chaque choix que nous opérons. Et cette influence nous donne des principes par lesquels nous marchons. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de prendre les principes de la parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit que Samson, bien qu'il a accompli les plans de Dieu pour sa vie, Dieu l'a utilisé, c'est vrai, pour délivrer Israël, mais il est mort de manière très tragique en tout cas, aveugle, un peu suicidaire, tout ça. Moi, j'aurais bien voulu qu'il puisse avoir sa victoire et qu'il ait ses deux yeux et qu'il ne meure pas en même temps que ses ennemis. C'est là que le film s'est fini bien, n'est-ce pas? Hein, quand les héros de l'histoire viennent de finir tout le monde, et lui, il reste en vie. Mais quand même les héros meurent, on part avec un sentiment d'insatisfaction. Ah, il filme, il dit, j'aime pas à ça, non, vraiment. J'aime pas à ça. Parce qu'il y a des principes, au fait. Dieu, même s'il se sert d'une personne, il n'aime pas, il n'est pas nécessairement content des choix que cette personne est en train d'opérer. Comprenez ça? Ça revient encore pour Samson. C'est pour ça que les principes sont très importants. Parce que quand nous suivons le principe de la parole de Dieu, au fait, c'est là que nous sommes en train de définir quel genre de personne, quel genre d'instrument nous allons être entre les mains de Dieu. Quel genre d'instrument? Est-ce que c'est l'instrument qui a été utilisé, c'est vrai, mais il a eu une fin tragique? Ou est-ce que c'est cet instrument-là qui a suivi les principes de Dieu et on sent que dans son histoire, il n'y a pas beaucoup de tâches? C'est vraiment une histoire qui se termine et tout le monde se lève et dit « Waouh, bravo, quelle belle histoire !» C'est un peu comme l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Il avait des principes. Quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire, les principes ont dit ici, c'est non négociable. Les choix sont clairs. Les principes sont comme des garde-fous, au fait. Là, on n'a même pas le choix. On connaît déjà ce que la parole de Dieu dit. Et donc, c'est ça même la force des principes dans la prise de décision. Comprenez ça? Quelqu'un te sollicite et dit, en tout cas, il faut vraiment te récupérer, il est là, il est sac, ainsi de suite. Toi-même, déjà, tu te dis, il y a déjà un principe qui régit ma décision par rapport à ça. La parole de Dieu dit, tu ne voleras pas, n'est-ce pas? Et tu t'arrêtes là, il n'y a même pas à choisir. Les principes nous aident dans la prise de décision et ces principes sont dans la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Bien que nous ne savons pas toutes les choses qu'il connaît, bien que ses voix sont au-delà de nos voix, mais au moins il nous a révélé une grande partie de ce qu'il veut dans cette parole. Il nous a donné des principes avec lesquels on peut marcher. Vous êtes en train de comprendre? Principe, c'est l'autre paramètre. Autre paramètre, ce sont les priorités. Les priorités. En fait, je suis toujours étonné de voir... Je m'excuse, je vais déranger quelqu'un maintenant. De voir quelqu'un qui est encore à l'école secondaire, on paye pour lui les études, on fait tout pour lui, il demande encore tout vraiment, les chaussures, tout, il n'a rien à faire pour lui-même, et on les voit en train de poursuivre des filles ici et là, courtiser, ainsi de suite. Priorité, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Parce que quand on ne connaît pas la saison dans laquelle on se trouve, on prend seulement des décisions qui sont un peu bêtes. Parce qu'on ne connaît pas vraiment quelles sont les priorités de cette saison dans laquelle je me retrouve. Ungal nala la kwenu msalon. Et toi, tu veux courtiser une fille de tout. Pourquoi? Tu veux l'amener où? Pour que vous puissiez aussi tous passer la nuit sur les divans et tout ça. Il faut connaître vos priorités. Une question de priorité. Question de priorité. Dans cette saison dans laquelle je me retrouve, quelles sont les choses sur lesquelles je dois me focaliser? Est-ce que ce sont les études ou bien est-ce que c'est chercher quelqu'un pour la vie? Priorité. Une question de priorité. Priorité. Quelles sont les décisions prioritaires que tu dois opérer maintenant? Je récapitule ce que je viens de dire. J'ai parlé de la première chose, ce sont les préférences. La deuxième chose, ce sont les possibilités. Quelles sont les choses qui sont possibles maintenant? Parce qu'il y a des personnes qui n'étudient pas parce qu'il a peut-être un grand rêve. Il dit, en tout cas, moi... Si ce n'est pas l'aéronautique, c'est rien. Mais on te dit, mais il y a ISTA ici, il y a ILPG, tu peux faire ça en attendant. Mais comme tu es dans la fantaisie, au fait, les possibilités nous aident aussi à être réalistes dans nos décisions. Nous aident à être réalistes dans nos décisions. Comprenez ça. J'ai parlé des possibilités, j'ai parlé des principes. Savoir quelles sont les choses non négociables. Ici, il n'y a même pas de choix à faire. Je connais déjà ce que Dieu dit à propos de cette chose. Donc, je ne vais pas même tergiverser. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Smith a dit pendant la veillée que nous avons ici. Il a dit, il y a des personnes qui l'ont approché. Il a dit, est-ce qu'on peut faire ça? Et lui, il a regretté. Il s'est dit, comment ces personnes ont même pensé à moi pour m'associer à ça? Parce qu'il connaît déjà les principes qui les régissent. Il sait déjà que je suis une personne qu'on ne peut même pas approcher pour, par exemple, un détournement, pour, par exemple, une affaire louche, ainsi de suite. Il y a déjà des principes qui régissent ces décisions. Et ça, ça lui a fait mal. Il s'est dit, comment ces gens ont pu même m'approcher pour ça? Parce qu'il y a des principes qui sont là. Et là, c'est non négociable. On les suit. Amen. J'ai parlé des priorités. Quelles sont les priorités pour cette saison de ta vie? Ça doit informer tes choix. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sentent surchargés. Tu viens de te lancer dans une relation, tu es encore confus, tu ne sais même pas ce que tu vas faire dans la vie. Donc, tu n'as aucune direction et tu amènes quelqu'un d'autre, une fille par exemple, n'est-ce pas, dans ta confusion. Et on se retrouve tous les deux confus. Manque de priorité. Manque de priorité. Donc, il faut vraiment tenir compte des priorités de votre vie pour cette saison. Quelles sont les priorités pour votre vie pour cette saison? Et ça, ça va informer aussi vos décisions. Autre principe, c'est de savoir que derrière chaque prise de décision, les produits ne sont pas instantanés. Il y a toujours un processus. Il y a toujours un processus. Il y a toujours un processus. Ce n'est pas parce que tu as pris toutes les bonnes décisions que réellement tu vas te retrouver déjà au bon résultat. Dieu, même dans tout ce qu'il faisait, en fait, le processus même d'Isali, ça a pris du temps. C'est vrai que tu veux te marier, c'est vrai que tu veux avoir la femme de ta vie, mais juste parce que tu as déjà tous les atouts, tu es un homme qui aime Dieu et tout ça, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Ça ne veut pas dire que tu vas voir comme Moïse, par exemple, un bûcher ardent qui te dit « Donc, vois la femme de ta vie. » Nope, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours un processus. Et le processus demande de la patience. Quand on veut prendre une grande décision dans la vie, il faut aussi de la patience. Il faut de la patience, il faut avoir évalué tous ces paramètres et comprendre que même si on se décide, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va directement marcher. J'aime toujours l'exemple de certaines voitures qui ne s'allument pas vite. On fait comme ça la clé de conscience, ça fait... Et ça s'arrête encore. C'est un processus, n'est-ce pas? Ce n'est pas que toutes les décisions, toutes les tentatives que nous allons avoir vont aboutir nécessairement. Ce n'est pas parce que tu as bien investi, ce n'est pas parce que tu as bien géré tes affaires, par exemple, dans ton entrepreneuriat et tout ça, que nécessairement tu vas finir millionnaire du jour au lendemain. Il y a toujours un processus. Il y a toujours un processus. Et donc, même dans la prise de décision, tenez compte du processus, que ça peut prendre plus longtemps ou bien ça peut prendre moins de temps. Et dans ce processus, Dieu est en train de nous rendre plus mature. Pour conclure, ce sont ces principes, je vais encore une fois les citer. J'ai parlé des préférences, n'est-ce pas? J'ai parlé des possibilités. J'ai parlé des principes, ces paramètres. Principes. J'ai parlé des priorités. J'ai parlé de comprendre qu'il y a un processus. Que ce n'est pas du tic au tac. On peut prendre des bonnes décisions, mais il y a toujours un processus. Il y a un timing de Dieu. Il y a toujours un processus. Mais pour que le processus soit plus facile, au fait, c'est l'appel maintenant que je vais faire pendant que je suis en train de conclure. Pour que le processus soit plus facile, il faut que nos priorités et nos principes soient alignés avec la parole de Dieu. J'ai dit que tout le monde a une vision du monde, une certaine vision du monde. Tout le monde a une certaine influence qui les pousse à prendre des décisions. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelle est cette influence derrière vos décisions, derrière votre façon de penser, de procéder? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que quand on a nos principes et nos priorités qui sont alignées avec la parole de Dieu, le processus devient plus facile. Plus facile, au fait. Parce que Dieu nous rassure même quand les choses n'arrivent pas quand on les veut. Dieu nous rappelle toujours qu'il est fidèle à ses promesses. Et il nous guide. La Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 23, j'ai pris ça dans la version courante, « Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. » Car le Seigneur le prend par la main. Au fait, si vous avez des préférences, si vous avez des possibilités, si vous avez des priorités, si vous avez des principes, il faut tous que toutes ces choses soient alignées sur la parole de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à guider les personnes qui se confient en lui. Dieu prend plaisir à relever les personnes qui se confient en lui. C'est vrai que tu peux avoir peut-être opéré un choix et ce choix-là a des conséquences peut-être que tu n'aimes pas. Mais le Seigneur nous rassure dans sa parole que si nous venons à trébucher ou à tomber, il ne reste pas à terre. Le Seigneur nous prend par la main et nous aide à continuer. Il nous aide à continuer. Et donc, c'est ça ce que je suis en train de nous appeler à faire aujourd'hui. Décide de faire confiance en Dieu. Décide de faire confiance à Dieu avec tous les choix que tu dois opérer aujourd'hui, demain et même pour le reste de ta vie. Décide de faire de Dieu ta priorité. Parce que quand tu fais de lui ta priorité, au fait, toutes les autres choses auxquelles tu aspires, il va les faire. C'est la grande décision de la vie, au fait. Tu peux avoir beaucoup de choix, mais il y a ce choix-là qui est vital pour la conséquence ou bien même pour l'avancement de toutes les autres décisions que tu dois prendre. C'est celui de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Nous allons nous lever et nous allons demander à Dieu de nous aider. Seigneur, nous te disons, nous venons devant toi encore une fois cet après-midi pour te dire merci pour ta parole qui est sage, ta parole qui est pleine de choses, Seigneur, qui peuvent nous aider dans la vie et nous aider à faire des choix qui nous amènent vers une bonne destinée, qui nous amènent vers un bonheur que nous ne pouvons trouver qu'en toi. Père éternel, nous venons d'apprendre de l'histoire de Samson que réellement tu es souverain, même sur nos mauvais choix. Mais nous avons le choix, Seigneur, d'écrire l'histoire de notre vie à travers chaque décision que nous prenons. Aide-nous, Seigneur, à prendre nos décisions selon les principes que tu as mis dans ta parole. Selon, Seigneur, les priorités que tu as pour le monde et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut encore une fois très bien acclamer le Seigneur pour sa parole ?